Jules Michelet, La sorcière. Livre deuxième, chapitre 3. 100 ans de tolérance en France, réaction. L'Église donnait aux juges et à l'accusateur la confiscation des sorciers. Partout où le droit canonique reste fort, les procès de sorcellerie se multiplient, enrichissent le clergé. Partout où les tribunaux laïcs revendiquent ces affaires, elles deviennent rares et disparaissent, du moins pour 100 années chez nous, 1450, 1550. Un premier coup de lumière se fait déjà au milieu du XVe siècle, et il part de la France. L'examen du procès de Jeanne d'Arc par le Parlement, sa réhabilitation, font réfléchir sur le commerce des esprits, bons ou mauvais, sur les erreurs des tribunaux ecclésiastiques. Sorcière pour les Anglais, pour les plus grands docteurs du Concile de Bâle, elle est pour les Français une sainte, une sibylle. Sa réhabilitation inaugure chez nous une ère de tolérance. Le Parlement de Paris réhabilite aussi les prétendus vaudois d'Arras. En 1498, il renvoie comme fou un sorcier qu'on lui présente. Nulle condamnation sous Charles VIII, Louis XII, François Ier. Tout au contraire, l'Espagne, sous la pieuse Isabelle, 1506, sous le cardinal Ximénez, commence à brûler les sorcières. Genève, alors sous son évêque, 1515, en brûla 500 en 3 mois. L'empereur Charles Quint, dans ses constitutions allemandes, veut en vain établir que la sorcellerie, causant dommage aux biens et aux personnes, est une affaire civile, non ecclésiastique. En vain, il supprime la confiscation, sauf le cas de lèse-majesté. Les petits princes évêques, dont la sorcellerie fait un des meilleurs revenus, continuent de brûler en furieux. L'imperceptible évêché de Bamberg, en un moment, brûle 600 personnes et celui de Wurtzbourg, 900. Le procédé est simple. Employer tout d'abord la torture contre les témoins. Créer des témoins à charge par la douleur, l'effroi. Tirer de l'accusé par l'excès des souffrances un aveu, et croire cet aveu contre l'évidence des faits. Exemple. Une sorcière avoue avoir tiré du cimetière le corps d'un enfant mort récemment pour user de ce corps dans ses compositions magiques. Son mari dit « Allez au cimetière, l'enfant y est ». On le déterre, on le retrouve justement dans sa bière, mais le juge décide, contre le témoignage de ses yeux, que c'est une apparence, une illusion du diable. Il préfère l'aveu de la femme au fait lui-même. Elle est brûlée. Les choses allèrent si loin chez ces bons princes évêques que plus tard l'empereur le plus bigot qui fut jamais, l'empereur de la guerre de 30 ans, Ferdinand II, est obligé d'intervenir, d'établir à Bamberg un commissaire impérial pour qu'on suive le droit de l'Empire et que le juge épiscopal ne commence pas ses procès par la torture qui les tranchait d'avance, menait droit au bûcher. On prenait les sorcières fort aisément par leurs aveux, et parfois sans torture. Beaucoup étaient de demi-folles. Elles avouaient se transformer en bêtes. Souvent, les Italiennes se faisaient chattes et, glissant sous les portes, suçaient, disaient-elles, le sang des enfants. Au pays des grandes forêts, en Lorraine et au Jura, les femmes volontiers devenaient louves, dévoraient les passants, à les en croire, même quand il ne passait personne. On les brûlait. Des filles assuraient s'être livrées au diable, et on les trouvait vierges encore. On les brûlait. Plusieurs semblaient avoir hâte, besoin d'être brûlées. Parfois folie, fureur, et parfois désespoir. Une Anglaise menée au bûcher dit au peuple « N'accusez pas mes juges, j'ai voulu me perdre moi-même. Mes parents s'étaient éloignés avec horreur, mon mari m'avait renié, je ne serais rentrée dans la vie que déshonorée. J'ai voulu mourir, j'ai menti. » Le premier mot exprès de tolérance contre le sot Sprenger, son affreux manuel et ses dominicains, fut dit par un légiste de Constance, Molitor. Il dit cette chose de bon sens qu'on ne pouvait prendre au sérieux les aveux des sorcières, puisqu'en elles, celui qui parlait, c'était justement le père du mensonge. Il se moqua des miracles du diable, soutint qu'ils étaient illusoires. Indirectement, les rieurs, Hutten, Erasme, dans les satires qu'ils firent des idiots dominicains, portèrent un coup violent à l'Inquisition. Cardan dit sans détour, pour avoir la confiscation, les mêmes accusaient, condamnaient et, à l'appui, inventaient mille histoires. L'apôtre de la tolérance, Châtillon, qui soutint contre les catholiques et les protestants à la fois qu'on ne devait point brûler les hérétiques, sans parler des sorciers, mit les esprits dans une meilleure direction. Agrippa, Lavatier, Villers surtout, l'illustre médecin de Clèves, dirent justement que si ces misérables sorcières sont le jouet du diable, il faut s'en prendre au diable plus qu'à elles, les guérir et non les brûler. Quelques médecins de Paris poussent bientôt l'incrédulité jusqu'à prétendre que les possédés, les sorcières, ne sont que des fourbes. C'était aller trop loin, la plupart étaient des malades sous l'empire d'une illusion. Le sombre règne d'Henri II et de Diane de Poitiers finit les temps de tolérance. On brûle sous Diane les hérétiques et les sorciers. Catherine de Médicis, au contraire, entourée d'astrologues et de magiciens, eût voulu protéger ceux-ci. Ils multipliaient fort. Le sorcier Trois Échelles, jugé sous Charles IX, les compte par 100 000 et dit que la France est sorcière. Agrippa et d'autres soutiennent que toute science est dans la magie. Magie blanche, il est vrai. Mais la terreur des sots, la fureur fanatique, en font fort peu de différence. Contre Villers, contre les vrais savants, la lumière et la tolérance, une violente réaction de ténèbres se fait, d'où on l'eût attendu le moins. Nos magistrats, qui depuis près d'un siècle s'étaient montrés éclairés, équitables, maintenant lancés en grand nombre dans le catholicon d'Espagne et la furie ligueuse, se montrent plus prêtres que les prêtres. En repoussant l'Inquisition de France, ils l'égalent, voudraient l'effacer. À ce point qu'en une fois, le seul parlement de Toulouse met au bûcher 400 corps humains. Qu'on juge de l'horreur, de la noire fumée, de tant de chair, de graisse, qui sous les cris perçants, les hurlements font horriblement, bouillonnent. Exécrable et nauséabond spectacle qu'on n'avait pas vu depuis les grillades et les rôtissades albigeoises. Mais cela, c'est trop peu encore pour Baudin, le légiste d'Angers, l'adversaire violent de Villers. Il commence par dire que les sorciers sont si nombreux qu'ils pourraient en Europe refaire une armée de Xerxès, de 1 800 000 hommes. Puis il exprime, à la Caligula, le vœu que ces 2 millions d'hommes soient réunis pour qu'ils puissent, lui Baudin, les juger, les brûler d'un seul coup. La concurrence s'en mêle. Les gens de loi commencent à dire que le prêtre, souvent trop lié avec la sorcière, n'est plus un juge sûr. Les juristes, en effet, paraissent un moment plus sûrs encore. L'avocat jésuite Del Rio, en Espagne, Rémy, 1596, en Lorraine, Boguet, 1602, au Jura, Le Loyer, 1605, dans le Maine, sont gens incomparables à faire mourir d'envie Torquemada. En Lorraine, ce fut comme une contagion terrible de sorciers, de visionnaires. La foule, désespérée par le passage continuel des troupes et des bandits, ne priait plus que le diable. Les sorciers entraînaient le peuple. Mainvillage, effrayé, entre deux terreurs, celle des sorciers et celle des juges, avait envie de laisser là leur terre et de s'enfuir, si l'on en croit Rémy le juge de Nancy. Dans son livre dédié au cardinal de Lorraine, 1596, il assure avoir brûlé en 16 années 800 sorcières. « Ma justice est si bonne, dit-il, que l'an dernier, il y en a eu 16 qui se sont tués pour ne pas passer par mes mains. » Les prêtres étaient humiliés. Auraient-ils pu faire mieux que ces laïcs? Aussi les moines seigneurs de Saint-Claude, contre leur sujet, adonné à la sorcellerie, prirent pour juge un laïc, l'honnête Boguet. Dans ce triste Jura, pays pauvre de maigres pâturages et de sapins, le cerf sans espoir se donnait au diable. Tous adoraient le chat noir. Le livre de Boguet, 1602, eut une autorité immense. Messieurs des parlements étudièrent, comme un manuel, ce livre d'or du petit juge de Saint-Claude. Boguet, en réalité, est un vrai légiste, scrupuleux même, à sa manière. Il blâme la perfidie dont on usait dans ses procès. Il ne veut pas que l'avocat trahisse son client, ni que le juge promette grâce à l'accusé pour le faire mourir. Il blâme les épreuves si peu sûres auxquelles on soumettait encore les sorcières. La torture, dit-il, est superflue, elle n'y cède jamais. Enfin, il a l'humanité de les faire étrangler avant qu'on les jette au feu, sauf toutefois les loups-garous, qu'il faut avoir bien soin de brûler vifs. Il ne croit pas que Satan veuille faire pacte avec les enfants. Satan est fin, il sait trop bien qu'au-dessous de 14 ans, se marcher avec un mineur pourrait être cassé pour défaut d'âge et de discrétion. Voilà donc les enfants sauvés? Point du tout, il se contredit, Ailleurs, il croit qu'on ne purgera cette lèpre qu'en brûlant tout jusqu'au berceau. Il en fut venu là s'il eût vécu. Il fit du pays un désert. Il n'y eut jamais un juge plus consciencieusement exterminateur. Mais c'est au Parlement de Bordeaux qu'est poussé le cri de victoire de la juridiction laïque dans les livres de l'encre « Inconstance des démons » 1610 et 1613. L'auteur, homme d'esprit, conseiller de ce Parlement, raconte en triomphateur sa bataille contre le diable au Pays Basque, où, en moins de 3 mois, il a expédié je ne sais combien de sorcières et, ce qui est plus fort, 3 prêtres. Il regarde en pitié l'Inquisition d'Espagne, qui, près de là, à Logroño, frontière de Navarre et de Castille, a traîné 2 ans un procès et finit maigrement par un petit auto-da-fé en relâchant tout un peuple de femmes.